Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, voici les titres de votre journal. Nord Kivu, une accalmie relative est signalée ce mercredi dans la région de Kanombe et Kabaya, près de Rumangabo en territoire de Rutshuru. C'est après des affrontements hier entre les FARDC et la rébellion du M23. Le porte-parole Sokola 2 rassure que la situation est sous contrôle. Dans le territoire de Banalia, en province de la Tchopo, la deuxième phase de vaccination contre la polio s'est achevée lundi dernier, mais seulement elle s'est butée à une résistance farouche dans les villages les plus reculés du chef-lieu de cette entité, situé à 125 km au nord de Kisangani. L'invité de ce journal est le secrétaire exécutif adjoint chargé de l'administration et des finances du Sinamed Kalemi dans la province du Tanganyika. Dr Paul Kapami évoque les difficultés que rencontrent les médecins congolais dans l'exercice de leur métier. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, 12 morts et des disparus, c'est le bilan provisoire d'un double accident de circulation survenu dans la nuit de mardi à hier mercredi au village Limété dans les territoires de Kwamout en province de Maïndombé. Il s'agit de deux gros véhicules à destination de Kinshasa qui se sont renversés suite au mauvais état de la route. L'information est livrée par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maïndombé, David Bissaka. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À présent, les détails. Nord Kivu, pour commencer, une accalmie relative est signalée ce mercredi dans la région de Kanombe et Kabaya, près de Rumangabo en territoire de Rutshuru. C'est après des affrontements hier entre les FARDC et la rébellion du M23. Le porte-parole des opérations Sokola 2 affirme que les FARDC ont déjoué une infiltration des rebelles et leurs alliés dans ces lignes. Le colonel Guillaume Ndikik précise que la situation est sous contrôle. Cependant, au moins 5 villages de la zone se sont vidés de leurs habitants qui se sont mis à l'abri des tirs. Plus de détails avec vous, Alain Hirung.
Après une brève accalmie observée lundi soir, les affrontements ont repris dans la matinée hier mardi entre l'armée et les rebelles du M23 dans la localité de Kanombe, tout près de Kabaya, affirment plusieurs sources locales. Des tirs nourris ont été entendus jusqu'au soir et ont provoqué une psychose dans la région, ce qui a occasionné un déplacement massif des populations toute la soirée. C'est notamment la population de Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba et ailleurs. Désemparées, celles-ci se sont dirigées vers Rumangabo Monument, Katale, Bushenge et Bugomba sur l'axe Goma-Rutshuru. Des sources dans la région affirment que les rebelles du M23 auraient renforcé leur position en troupes et munitions, ce qui ravive l'inquiétude de la population.
En bref, le gouvernement de la RDC exige le départ du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Dans une note datée du 28 juillet dernier à la MONUSCO, le vice-premier ministre des Affaires étrangères considère que les tensions actuelles entre la MONUSCO et la population seraient dues aux déclarations délicates et inopportunes du porte-parole de la MONUSCO. Le gouvernement considère que la présence de ce fonctionnaire sur le territoire congolais n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Dans cette même note, Christophe Lutundula ajoute, je le cite, « Le gouvernement appréciera que des dispositions soient prises pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans les plus brefs délais. » Fin de citation. En Ituri, le gouverneur de la province interdit à tous les responsables des milices signataires de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités de circuler avec leurs armes dans les différentes entités du territoire de Djougou et d'Urumu. Le général Johnny Luboya a communiqué cette décision hier mardi au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité à laquelle ont pris part des commandants des différentes unités des FARDC. C'est à la suite de plusieurs exactions enregistrées ces derniers jours et dont sont auteurs des assaillants qui circulent avec leurs armes parmi la population. Les points avec Marcel Kizabiamou.
Tout est parti dès l'entrée spectaculaire le dimanche dernier d'une dizaine de miliciens de la FPIC munis de leurs armes à Lingabo, à la périphérie sud de Bounia, ce qui avait créé une panique parmi la population. D'autres exactions des assaillants de la Côte d'Éco, des FRPI et des FPIC sont plusieurs fois enregistrées contre des civils dans les territoires de Djougou et Irumu. Tous ces trois groupes armés sont signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités. Pour les gouverneurs des provinces, le général général Johnny Lobuya Kanchama, cité par les commandants de la 32e région militaire, l'acte d'engagement ne signifie pas les libertinages. Il a instruit à cet effet tous les commandants des unités d'amener ses miliciens à se conformer à cette disposition et d'éviter tout mouvement armé parmi la population. Pour rappel, depuis la signature des actes d'engagement par les groupes armés Codeco, bar IRDPC et de la FPIC, plusieurs de leurs éléments ont quitté leur maquis pour regagner leurs villages respectifs avec leurs armes. Leur présence non seulement crée une confusion avec les forces de l'ordre, mais aussi accentue la psychose parmi les civils. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu encore a béni une messe pour la paix a été dite hier mardi à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. En présence de l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni, ont participé aussi à cette messe les enfants des 45 chœurs de Pueri Cantores, venus de Mutuanga, Kanyabayonga, Lumé, Oicha, Karuruma, Boutembo, ainsi que ceux de la ville et territoire de Béni. Pour l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni, cette paix étant exigée pour ses enfants pour qu'ils vivent dans un Nord Kivu meilleur où la paix règne. Monseigneur Sikuli Paluku Metsisedek est au micro de Marc Marufimbo.
Je suis venu pour qu'avec les enfants, nous puissions montrer au monde entier que ici, nous n'avons qu'un vœu, qu'un souhait, c'est de recouvrer la paix. Cela doit commencer, doit partir de chacun de ses enfants. Parce que la paix que nous demandons, c'est d'abord pour eux. Il faut qu'ils vivent dans un Congo meilleur que celui dans lequel nous vivons. Qu'ils vivent dans une province du Nord Kivu meilleure que celui d'aujourd'hui. Dans une ville de Béni, de Oicha et dans un territoire où la paix règne, où le sang cesse de couler. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo nous appartient et il faut que ces enfants, d'eux aujourd'hui, prennent conscience que c'est eux qui doivent se comporter à responsables pour que cela puisse se réaliser. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans des conditions de bien-être pour tous.
Notons que cette messe a été également dite à l'occasion de 24 ans d'épiscopat de l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni. Dans les territoires de Banalia, en province de la Tchopo, la deuxième phase de vaccination contre la polio s'est achevée lundi dernier et s'est butée à une résistance farouche dans les villages les plus reculés du chef-lieu de cette entité, situé à 125 km au nord de Kisangani. Selon l'administrateur du territoire, les leaders communautaires, les chefs de certaines églises locales, ainsi que quelques individus, exigent des explications claires sur la récurrence de la vaccination des enfants au cours d'une même année. Joseph Orevoir Tenafango a été joint par Jacques Moukonkolé.
Il y a des cas de résistance de routine où certaines personnes se demandent pourquoi il y a des successions de vaccinations. Il y a eu vaccination contre la COVID, il y a eu contre la méningite, il y a eu contre la dépression, il y a eu contre la rougeole. Première phase de VPO, deuxième phase de VPO. Alors vraiment, la population dit, mais ça devient autre chose. Au niveau de la route à Limoukou, il y a un monsieur qui s'appelle Kimberiti, qui a même chassé les acteurs de vaccination. Ils disent qu'ils ne sont pas de Banalia. Nos acteurs sont partis là-bas et ils refusent. Est en train de poser une résistance farouche. Il est à Nyonga, une carrière là-bas, vers Ali Boukou là-bas. Bon, ici à Filondo, il y a des gens qui refusent et on a envoyé la police. Et il y a aussi des églises, des sectes comme les Kikawalis aussi, et les témoins de Jéhovah qui opposent des résistances. Mais nous nous sommes déplacés jusque-là. On a même arrêté les chefs spirituels de l'église.
Au Maniema, la société civile Force Vive sous antenne de Bassong Premier déplore l'absence des médecins traitants à l'hôpital général de référence de Samba, à plus ou moins de 185 km de Kindu, au sud de la province. Selon Abedi Kazimoto Dallas, président de cette structure, sur 6 médecins que compte l'hôpital général de référence de Samba, il n'y a qu'un seul médecin là-bas et les autres traînent encore à Kindu pour des fins propres. Conséquence, les patients sont abandonnés à leur triste sort. Il est au micro de Florence Kizalunga.
En tout cas, c'est inconcevable qu'un hôpital général de référence comme celui de Samba puisse avoir qu'un seul médecin traitant, alors que les cinq autres médecins sont en train de vagabonder à Kindu pour des fins propres. Ils bénéficient les primes de risque et des PDSS pour le compte de la zone de santé de Samba. On se demande comment un seul médecin peut s'en sortir à la consultation, autour des salles. Et s'il se posait un problème chirurgical, il doit se retrouver au bloc opératoire. Et maintenant, les malades sont abandonnés à leur triste sort et obligés de consulter les charlatans, n'est-ce pas là un génocide? Nous demandons au gouverneur et à la DPS de faire en sorte que les médecins de la zone de santé rurale de Samba qui traînent à Kindu puissent regagner Samba plus vite que possible et dans les cas contraires, nous affecter d'autres qui vont accepter de travailler avec nous ici à Samba et chercher partout des voies et moyens à sanctionner celui qui délivre les feux de route parce que 6 mois d'absence, c'est déjà une désertion et surtout comme ça se coïncide avec la période de grève.
Et contacter le médecin chef de zone de santé de Samba confirme cette nouvelle. Haruna Morishodi attend le rapport du médecin directeur pour faire rapport à sa hiérarchie. Et puis lancement hier mardi à Mbandaka du projet de lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle. Le projet concerne les acteurs humanitaires qui implémentent encore les activités de résilience, notamment dans les zones de santé urbaine de Bolingué, Mbandaka et Wangata, qui ont connu la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola. Ce projet de l'Oxfam est exécuté par Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. Des détails avec Paul-Richard Malingela.
Malgré la fin de la 14e épidémie d'Ebola en Mbandaka le 4 juillet dernier, les activités de résilience continuent. Voilà pourquoi ce projet de 6 mois va aider à la prévention des cas d'abus et d'exploitation sexuelle, mettant spécialement en cause les humanitaires locaux impliqués dans cette résilience. Comme l'expliquait le coordonnateur du projet au sein de l'UNFPA, Maître Bertrand Kabembela.
Même après l'épidémie à virus Ebola, les effets peuvent continuer. Peut-être qu'il y a eu des victimes, peut-être qu'il y a eu des cas, peut-être qu'il y a eu des milieux où l'information n'est pas arrivé. Voilà pourquoi ce projet est là et nous pensons qu'il est encore opportun du fait que les effets peuvent persister et il faudrait voir comment y répondre.
Outre les médias locaux, les chefs de quartier, les crieurs, les lieux de culte et autres seront mis à contribution afin de sensibiliser la population. Un numéro vert et des boîtes à suggestions seront disponibles en vue de la dénonciation. Le chef de division provinciale de la santé Équateur s'est réjoui de l'impact qu'aura ce projet. Docteur, bienvenue Ikomo.
Lorsque la personne va intérioriser ce code de bonne conduite, je pense que ce code de bonne conduite va nous faire éviter beaucoup de choses. Et la deuxième chose va faciliter aussi aux femmes vulnérables de dénoncer. Il y aura facilité qu'on puisse écouter aussi la voix de ces vulnérables.
Les acteurs humanitaires présents au lancement ont signé chacun une copie du code de bonne conduite, s'engageant ainsi à s'abstenir de tout abus et exploitation sexuelle. Mbandaka, Paul Chamanigué, la radio Okapi.
Et dans la province éducationnelle Congo Central 2, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a rendu public les dispositions pratiques à observer pour que cette rentrée scolaire soit favorable pour les parents. Dans son communiqué fait ce mercredi à l'intention des acteurs éducatifs, y compris les chefs d'établissement de sa juridiction et les parents, Jean Tshisekedi Kabasele indique que les frais scolaires pour l'année 2022-2023 doivent être perçus en monnaie locale, en monnaie nationale, et puis les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires au marché de leur choix. Écoutons le directeur de la province éducationnelle Congo Central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, au micro de Nana Plurich Mambou.
Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Ils ne peuvent donc être abstraits à aucune obligation. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par les calendriers scolaires 2022-2023, soit du lundi 22 au samedi 27 août 2022. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de son appartenance raciale, religieuse ou pour des raisons de frais scolaires. L'enseignement primaire public étant gratuit, aucun frais ne peut être ni demandé ni perçu pour quel que soit le motif. J'attire l'attention des gestionnaires des écoles sur les caractères exécutoires des présents disposition. Et je promets des sanctions sévères à l'endroit de tout chef d'établissement qui se comportera autrement. J'invite par ailleurs les parents d'élèves et les responsables des structures des sociétés civiles à dénoncer tout comportement contraire aux présentes dispositions.
Actualité internationale.
La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan ce mercredi au terme d'une visite historique et controversée à laquelle Pékin a répondu par des menaces et des annonces d'exercices militaires. L'élu de 82 ans a salué les dignitaires sur le tarmac de l'aéroport de Songshan à Taipei avant de monter à bord d'un avion militaire américain pour le décollage.
L'invité.
L'invité de ce journal est le secrétaire exécutif adjoint chargé de l'administration et des finances du Sinamed Kalemi dans la province de Tanganyika. Dr Paul Kapami évoque les difficultés que rencontrent les médecins congolais dans l'exercice de leur métier. Je vous propose de l'écouter dans cet entretien avec Paul Munanga.
Dr Paul Kapami, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Pouvez-vous tout d'abord nous dire le pourquoi de ces mouvements?
Le gouvernement congolais connaît les problèmes des médecins congolais, mais le gouvernement ne veut pas résoudre ces problèmes, ne veut pas aider les médecins dans leurs revendications.
Quelles sont ces revendications?
Le gouvernement ne suit pas bien le mouvement des médecins au point de vue promotion en grade. Il y a eu des médecins qui ont fait des années sans avoir été promus en grade. Ils sont nommés par l'État congolais comme peut-être médecin avec numéro matricule. Mais promotion de grade, ça ne suit pas. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, on engage des médecins sans leur attribuer de numéro matricule. Il reste NU, donc nouvelle unité, pendant des décennies, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça, ce n'est pas normal. Bon, au point de vue salaire, le médecin n'a pas de salaire, il n'a que des primes. Mais par définition, une prime, ça accompagne un salaire. Il y a d'abord un salaire fixe, et puis des primes qui suivent dans le cadre des faveurs qu'on peut donner à un agent. Mais pour le médecin congolais, non, on dit seulement que ce sont des primes de risque. Or, ces risques-là sont vraiment nombreux. Chaque fois qu'il y a une épidémie dans une contrée donnée, ceux qui meurent d'abord en grand nombre à la ligne de front, c'est d'abord les médecins, les infirmiers et autres personnels, les balayeurs dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, etc. S'il y a une épidémie d'Ebola quelque part, le premier malade arrive, il est vu par un infirmier, il est vu par un médecin. L'infirmier ne sachant pas que c'est l'Ebola, bon, automatiquement il va attraper la maladie et il va mourir. Et c'est ainsi que pour ceux qui regardent la COVID-19, il y a eu 200 médecins qui sont décédés en RDC.
Et concernant le transport des médecins, y a-t-il quelque chose comme revendication dans ce sens-là?
Nous avons demandé qu'il y ait quelque chose pour le transport des médecins, il y ait quelque chose pour ceux qui regardent le logement des médecins, mais il n'y a rien qui se fait. Vous allez vous rappeler, c'est Okapios qui l'a appris, il y a eu des députés à Kinshasa qui ont eu des véhicules flambant neufs, encore des véhicules très 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 chers.
Les médecins veulent aussi des véhicules?
Bon, je ne dis pas que les médecins veulent aussi des véhicules, non, ce n'est pas tellement ça. Mais ce qu'il faut voir maintenant, dans les catégories des Congolais, dans le cadre de service, il y a des écarts trop importants. Si on pouvait peut-être gérer un peu les choses, hein, que chacun puisse voir s'il faut rabaisser un peu le salaire, mettre un peu d'équilibre et d'équité dans ce qui s'est fait, ça allait être assez bien. Mais pas quelqu'un qui vit avec 13 000, 15 000 dollars par mois, et pour un autre qui a moins de 500 dollars par mois, alors qu'au point de vue étude, au point de vue responsabilité, ce n'est pas ça les écarts qui sont vécus. Notre gouvernement, depuis des années, peut-être pas seulement le gouvernement actuel, il a quoi comme base de fixation de salaire? Est-ce que vous, les jeunes, vous le connaissez? Je ne sais pas cette base-là, c'est quoi? On donne comme ça de l'argent, ou des primes, même pas le salaire. On donne des primes seulement comme ça, au hasard, parce qu'il est de tel parti politique, il va avoir des millions, il va être nommé ambassadeur par-ci, par-là. Mais c'est ça l'équité, moi je ne sais pas. Donc bref, les médecins veulent qu'il y ait quand même une équité dans ce pays. Le gouvernement travaille sans vision, sans plan de travail. Vous allez voir un ministre qui arrive, qui est nommé là-bas, oh, il faut rajeunir l'administration. D'accord, rajeunir l'administration. Bon, maintenant, ceux qui sont là, les vieux qui sont là, ils vont aller où? Non, il n'a pas de réponse.
Ils vont à la retraite.
Ils vont à la retraite. Est-ce que toi, tu en as entendu parler? Et combien de retraités qu'il y a eu? Et maintenant, s'il y a eu des retraités, qu'est-ce qu'il y a eu comme prime de sortie dans le cadre de la retraite? Nothing, rien du tout. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont là. Lorsqu'il est nommé, il est content, il s'occupe de sa poche, il s'occupe de sa famille biologique, il s'occupe de sa famille politique, et ils ne voient pas plus loin que ça. Ça ne marche pas. Il faut que les médecins bougent, parce que les médecins sont parmi les gens les plus instruits du pays. Alors, pourquoi est-ce que nous devons être maltraités par une autre catégorie de population?
Vous êtes médecin depuis plus de 40 ans. Je pense que vous avez toujours revendiqué vos droits. Mais qu'est-ce qui a changé depuis que vous le faites?
Bon, le Sinamed n'a pas été créé par moi comme tel, mais ça a été créé par les gens de ma génération. Alors, c'est depuis ce moment-là que nous avons commencé à revendiquer. C'est un fait que s'il y a eu la prime de risque, sais pas si les Sénamèdes avaient revendiqué parce que les salaires étaient insignifiants. Parce que mon salaire, moi, lorsqu'on a dit qu'il faut maintenant fusionner salaire et prime, c'était 100 dollars. Que vous imaginez? Ça vous fait rire vous aussi, hein?
Docteur Paul Kapami, je vous remercie.
Bon, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.